maintenant, il va nous faire le coup du type qui se rappelle de rien là.
Toi je t'interdis de publier des salades dans ton canard de merde jusqu'à ce que le procès soit terminé.
Walking, walking on a tightrope of insanity. Walking, walking on the verge of losing mind.
Non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Alors on commence par le dessert. Maître Julien Bouliane est dans nos studios, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Alors,
bon retour.
Bon retour.
Ben oui.
Parle-moi de ce voyage chez les Rouskov.
On a adoré ça. Honnêtement, là, je vous dirais que c'est un voyage qui était en deux parties. La première, on s'était vraiment concentré sur l'ascension, qui était un objectif ultime. On voulait monter le Mont Elbrus, qui est le plus haut sommet d'Europe, 5642 mètres. On le faisait pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Donc, on voulait ramasser de l'argent tout en gravissant un des fameux 7 sommets, c'est-à-dire le sommet le plus haut de chacun des continents.
Et toi, le Mont Valin, c'est un pet, là. Il n'y a rien là.
c'est un bon terrain de jeu. C'est un bon terrain de training. On s'est entraîné beaucoup sur les Monts Valin, mais c'est plus ou moins 6 fois les Monts Valin.
Hey,
donc,
boy.
Toute la problématique est une question d'altitude. Ça fait en sorte que les températures sont beaucoup plus froides. Ça fait en sorte que votre corps absorbe beaucoup moins d'oxygène. Donc, vous avez vraiment des conséquences importantes sur votre métabolisme. Vous dormez moins bien. Vous avez des maux de tête, des maux de cœur. Donc, vous allez avoir le mal aigu des montagnes. Vous pouvez faire des œdèmes pulmonaires. Œdème cérébral. Donc, c'est vraiment une question d'acclimatation. Il ne faut pas arriver là pour monter en haut d'un coup sec. Donc, on y va vraiment. On monte haut, on redescend couché bas. On remonte un petit peu plus haut, on redescend couché bas. On remonte un petit peu plus haut, on redescend couché bas. Et là, à ce moment-là, dépendamment de la fenêtre météo, c'est là que nos guides surveillaient ça là, ardemment. Puis ils nous ont dit, les gars, cette nuit, 2 heures, on décolle. On a une fenêtre météo de soleil qui, jusqu'aux alentours de 14 heures, fait qu'on est parti en pleine nuit. On marchait un arrière de l'autre. Et là, on a fait la fameuse ascension finale. On a atteint le sommet aux alentours de 10 heures le matin.
Okay.
C'est toujours un super beau moment quand on arrive là, toute l'équipe, on prend des photos, on serre dans nos bras. Le problème de la montagne, je le répète souvent, c'est que rendu en haut, t'en as juste la moitié de fête. Il faut que tu redescendes.
Ah ben
c'est,
oui.
C'est souvent là qu'il y a beaucoup d'accidents à la descente. On est fatigué. La descente
on pense difficile. Que le danger est derrière.
Ouais,
mais...
Exactement. C'est souvent là qu'arrivent des accidents importants. Donc par contre, on n'a pas eu de pépins. On a eu une belle fenêtre météo, mais c'était très difficile parce que le soleil n'est pas nécessairement un avantage. C'est un avantage au niveau de la visibilité puis des fois du froid, mais ça fait en sorte qu'on est obligé de beaucoup jouer avec les couches. Parce que le soleil est tellement fort en altitude, il faut faire attention, il faut se couvrir le visage, il faut se mettre de la crème solaire, du lipsil, etc. Puis dès que le soleil plombe beaucoup, oh, on enlève une couche, on met ça dans le sac à dos parce qu'on veut surtout pas avoir chaud, se mettre à suer. Puis ensuite, lorsque le soleil s'y est caché un peu par les nuages, là, on se met à avoir très, très froid. Donc, il y a beaucoup de gestion. Quand on est parti en pleine nuit, on était habillé comme des ours. Quand le soleil s'est levé, on a commencé à enlever des couches. On avait à peu près 3 paires de mitaines. Oh, on en met une plus froide quand on était à des bouts. Oh, on met des gants un peu moins chauds. Même chose, on enlève une couche, on enlève notre Gore-Tex, on met la doudoune par-dessus, etc. Donc, il y a eu beaucoup de gestion. Ça fait partie de la game, ça fait partie du trip. On a vraiment apprécié notre expérience. On avait 2 guides russes super expérimentés, mais des flots d'à peu près 23-24 ans, qui le montent à peu près 30 fois par année. Là, on était seulement leur deuxième fois. Écoute, v'là 2 semaines, c'était sa 2e fois. Je le suis sur Instagram, un de nos guides, Josh. Puis là, ce matin, il m'a envoyé un post. Il est à sa 8e fois.
Hey boy, une machine?
C'est des machines. Hey, c'est des machines. Okay. C'est des guides de montagne l'été comme ça. Et l'hiver, c'est des guides en ski. C'est des patrouilleurs sur l'Elbrus. Il faut le dire, c'est un phénomène bizarre quand on arrive sur la montagne. Contrairement, exemple, quand on avait fait Kilimanjaro, où c'est purement une montagne, puis qu'il y a que des gens qui montent puis qui couchent avec des tentes. Là, c'est comme si, donner un exemple, au Valinois, vous montiez le télésiège, donc il y a des gens sur cette partie-là qui font du ski. Puis là, il y aurait un gros champignon sur le dessus où nous, c'est la partie, donc le haut du télésiège, c'était un peu notre camp de base. Donc il y a des gens qui arrivaient là, qui étaient habillés en jeans, qui venaient prendre des photos à la hauteur de notre camp de base.
Okay.
Où il y en a qui venaient faire du ski parce qu'on peut monter en télésiège. Nous, on l'a fait à pied complètement d'en bas. Là, se rendre au camp de base, c'est 5h30 de marche.
Mon Dieu.
Mais on peut prendre 3 gondoles qui nous amènent à cet endroit-là, à notre camp de base. Nous, on regarde vers le haut parce qu'il nous reste après ça. Le camp de base est à 3750. Puis on va monter jusqu'à 5642 mètres. Mais ça fait drôle. Quand on redescend au camp de base, là, c'est plein de monde. Il y a du monde qui sont là, il y a du monde qui sont en ski, il y a du monde sur une terrasse, il y a un petit café qui est là, etc. Donc c'est pour ça que je dis, c'est comme si on était en haut du Valinois, puis c'est là que nous est notre départ, mais qui est finalement des gens qui sont là. Donc à toutes les fois qu'on redescendait, on croisait plein de monde. Puis une fois qu'on part sur la montagne, ben là, on croise quand même beaucoup de monde. C'est pas le même embouteillage que sur l'Everest, mais on a vécu un peu le même phénomène parce que la dernière partie, je vous dirais que les dernières 2 heures de marche, faut s'accorder, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. Là, il y a une corde fixe qui est là pour éviter qu'on glisse parce que si vous glissez, ben, vous risquez de vous tuer tout simplement. Donc à chaque fois que vous croisez quelqu'un qui redescend, faut se détacher avec les grosses mitaines, ouvrir le mousqueton, puis là, attendre que la personne passe, se raccrocher sur la corde fixe, ainsi de suite. En redescendant, il y en avait un là, qui de notre gang qui est redescendu un petit peu plus vite, qui ne s'attachait pas nécessairement parce qu'il avait un peu le mal aigu des montagnes, il avait hâte de redescendre, parce que plus tu redescends, aussitôt que tu redescends, en fait, ton état de santé s'améliore instantanément. Si tu avais des maux de cœur, si tu avais des maux de tête, dès que tu redescends en altitude, ton état s'améliore. Donc, il y en a un qui s'est plus ou moins accroché en descendant parce qu'il avait toute une hâte de descendre un peu pour se sentir mieux. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent là que les accidents arrivent. Heureusement, il ne nous est rien arrivé. On a été très chanceux sur la météo. On a eu d'excellents guides. Ce qui a fait en sorte qu'on a atteint le sommet, puis ce qui a fait en sorte qu'on tente de ramasser le maximum d'argent pour notre jeunesse régionale.
Ben ça, c'est le plus important. C'est quoi le chemin si on veut faire des dons? Parce que vous en prenez encore aujourd'hui.
Oui, on en prend encore pour quelques semaines. Au sommetpourlajeunesse.com ou notre page Facebook Au Sommet pour la Jeunesse. Il y a des dons en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez même venir les porter directement au centre jeunesse ici, sur la rue Bégin ou à notre bureau sur la rue Saint-Dominique. On ramasse tout. On a un objectif de 30 000. On espère grandement le dépasser. Donc, merci de votre générosité. Je le répète, je le dis toujours, je dois faire 100 fois, je le dis. 100 cents dans pièces de ce qu'on ramasse va directement à la fondation. On n'a pas de frais de gestion. Il n'y a rien qui va pour notre voyage. Tout ce qu'on ramasse, on le donne directement à notre jeunesse régionale.
Voilà. Maintenant, les choses sérieuses. Un homme attaqué avec un marteau à Chicoutimi. Et je pense que celui qui tenait le marteau est ton client.
Effectivement. Comparution qui a eu lieu ce matin. Un événement qui a eu lieu hier soir. On parle d'un triangle amoureux. Là, on ne rentrera pas tellement dans les détails, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une certaine jalousie. Deux individus, une dame. Mon client, à ce moment-là, se présente au domicile, sachant que l'autre homme est sur place. La chicane éclate et il y a eu des coups de marteau qui ont été assonnés. Il n'y a pas de blessure grave, mais quand même des infractions assez graves qui ont été portées. Introduction par infraction dans le but de se livrer à des voies de fait armées, chef de menace également. Donc, il y a eu une objection à sa remise en liberté. Le tout a été reporté à mardi. Je vais prendre connaissance de la preuve d'ici là, voir quelles seront les garanties qu'on pourra proposer dans l'attente. Mais il faut le dire, c'est un crime très grave, ce qu'on appelle l'introduction par infraction dans le but d'y commettre des voies de fait. L'expression anglophone est un home invasion et c'est traité assez sévèrement. Si jamais il était reconnu coupable, il fait face à des peines assez importantes.
Les policiers nous disaient que c'était un homme qui était connu des services policiers. Pour quelles raisons? Quels sont les antécédents du client?
Connu, mais bonne accalmie judiciaire. C'est quelqu'un que j'ai représenté il y a plusieurs années, mais c'était dans les cas d'introduction par infraction puis de vol. Là. C'est pas quelqu'un qui est en matière de violence. Et depuis, c'est quelqu'un qui s'était complètement réhabilité, là, travaillé, etc. Donc, c'est pas du tout parce qu'il est retombé dans ses vieux patterns. C'est un événement que je peux considérer isolé. Toujours la présomption d'innocence, évidemment, mais dans ce qu'on sait présentement, là, c'est vraiment une situation de triangle amoureux qui aurait dégénéré sans préméditation.
On va parler de Johan Senneville de Saint-Honoré qui n'a pas réussi à démontrer par le témoignage de ses chums qui n'étaient pas impliqués dans le trafic de cocaïne et de méthamphétamine. Quand on fait témoigner ses amis, quel poids ça a pour le juge?
Ça peut avoir un poids très important. OK? Il faut le dire, n'importe qui vient témoigner, tout est une question évidemment de crédibilité. Donc, d'un côté, le ministère public va présenter sa preuve. Dans ce cas-ci, il y a eu des preuves texto, des policiers qui sont venus établir de la filature, des contacts avec certaines personnes, ont tenté d'établir le trafic de stupéfiants, etc. Il y avait une partie qui était une preuve circonstancielle, c'est-à-dire qu'on n'avait pas quelqu'un qui voyait directement des trafics, mais compte tenu avec des brides de conversation, des filatures, vous êtes vu sur place, vous êtes vu avec tel individu, etc. C'est ce qu'on appelle la preuve circonstancielle. Donc, qui fait en sorte que même si on n'a pas quelqu'un qui vient témoigner directement sur ce qu'il a vu, les pièces de casse-tête qu'on aligne une à côté font en sorte que le juge peut tirer une inférence logique de ça. Donc, pour conclure, même s'il n'y a pas de témoin direct, c'est clairement on est en train de commettre l'infraction. Il y avait aussi de la preuve directe des policiers qui ont témoigné. En défense, M. Senneville ne s'est pas fait entendre, mais a quand même présenté une défense avec deux autres individus. Donc, pour répondre à ta question, Richard, quel poids ça peut avoir? Tout est une question de crédibilité.
OK.
Vous pouvez faire entendre un seul témoin. Mais s'il est crédible, s'il témoigne avec aplomb, etc., puis ça soulève un doute dans l'esprit du juge, c'est suffisant.
Okay.
À l'inverse, vous pouvez faire entendre 152 témoins. Mais s'ils ne sont pas crédibles, ou tout le contraire, le danger, c'est qu'en présentant plusieurs témoins, ils peuvent avoir des contradictions entre eux. Finalement, vous pensez qu'on va en mettre plus, on va cogner sur le clou. Finalement, ça fait en sorte que vous affaiblissez votre preuve en présentant différents témoins qui peuvent avoir des divergences sur certains éléments ou des contradictions. Donc, ce n'est pas une question de nombre de témoins. Ce n'est pas moins crédible d'avoir un de vos amis que vous-même à témoigner. Ce n'est pas moins crédible que ce soit quelqu'un que vous connaissez, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de chances que les personnes qui sont témoins de vos gestes soient des personnes que vous connaissez. On comprendra que oui, idéalement, ce serait quelqu'un qui connaît personne puis qui est un témoin neutre qui viendrait dire « Non, j'ai vu ça, ça, ça ». ça donne beaucoup plus de crédibilité quand on connaît pas la personne puis qu'on est un, comme je le dis, un témoin neutre. Mais ça veut pas dire que parce que la personne, vous la connaissez ou que c'est un de vos amis, qu'il n'y a pas de crédibilité. Ça va être vraiment du cas par cas, une évaluation de chacun des témoignages. Dans ce cas-ci, malheureusement pour M. Senneville, la juge a évalué ces témoignages-là et ne leur a pas accordé beaucoup de crédibilité, les a donc écartés et a conclu que le ministère public s'était déchargé hors de tout doute raisonnable de la commission des infractions et l'a déclaré coupable, entre autres, de complot de trafic et de trafic de cocaïne.
Et on termine avec Carl-Emmanuel Villeneuve, accusé de meurtre au premier degré. Je pense que c'est des événements là, qui remontent au 29 juillet 2018, donc l'été passé. Il est accusé du meurtre d'Alexandre Larouche. Donc, c'était survenu le 29 juillet 2018 dans une maison, la rue Johanna à Chicoutimi-Nord. Et pour l'instant, son enquête caution est reportée. Ma question, Julien, mais c'est bien long, ça va faire un an. Ça va faire un an, puis on dirait que ça avance pas, ce dossier-là.
Dossier particulier, faut le dire. Il y a eu la comparution. Ensuite, il y a eu un rapport des psychiatres qui faisait en sorte que le client de Maître Fredette est tombé inapte à subir son procès. Pas le non-responsable criminellement, inapte, là. C'est-à-dire qu'il n'était même pas en mesure de comprendre ce qui se passait, même pas en mesure de collaborer avec son avocat dans le but de sa défense, qui faisait en sorte qu'on met le dossier sur la glace, on l'envoie à l'hôpital, puis on essaye en le médicamentant ou, bon, etc., avec certains traitements, d'attendre qu'il soit de nouveau apte. Et donc, on l'a ramené. Donc, c'est pour ça que ça a pris effectivement un certain temps. Il était inapte pendant une période. Oh, il est retombé apte. On l'a ramené. À ce moment-là, Maître Fredette a fait l'enquête préliminaire. Il a été cité à procès sur l'ensemble des infractions. Il a fait une première enquête sur remise en liberté. Le juge l'a gardé détenu. Dans l'intervalle, le client est redevenu inapte. Donc, on l'a retourné à l'hôpital. On a attendu. Ça a pris une certaine période. Et là, il serait de nouveau apte à subir son procès. Okay. Et ça fait en sorte que lorsque vous êtes détenu depuis plus de 3 mois, vous avez le droit à une révision de votre détention, c'est-à-dire une deuxième enquête sur remise en liberté. Donc, c'était ça présentement. Okay. C'est qu'on n'a pas encore la date de procès, mais compte tenu du délai écoulé, qu'on dépasse le 90 jours, vous avez le droit à une révision de votre cautionnement, donc une deuxième enquête sur remise en liberté. Dans ce cas-ci, Maître Fredette voulait envoyer son client dans un centre de thérapie, mais spécialisé avec des problématiques de santé mentale, ce qui serait le cas de son client. Malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir une acceptation ou de trouver une ressource. Et là, comme le délai était trop court entre la date qui avait été fixée, ça devait être aujourd'hui. Donc, comme le délai était trop court pour trouver une autre maison de thérapie, Maître Fredette a décidé de mettre ça sur la glace et de reporter à une date ultérieure cette fameuse deuxième enquête sur remise en liberté. Il se peut, par contre, s'il ne trouve pas d'autres garanties, qu'il ne la tienne jamais, cette fameuse deuxième enquête sur remise en liberté, et qu'il fixe directement à procès. Ce peut aussi, dans l'intervalle, il y ait des pourparlers entre la poursuite et la défense et qu'on arrive à un arrangement quelconque.
Merci beaucoup, Julien. En souvenir de la Russie, voici un petit thème que tu nous as ramené dans ces bagages. Tu n'as pas ramené de vodka?
J'en ai ramené une bouteille à un de mes amis. Okay. Mais là, mes valises étaient avec tout l'équipement qu'on traînait. Je vous dirais que la marge de manœuvre dans mes bagages était très mince. Mais il y avait un ami qui avait beaucoup insisté pour avoir sa bouteille de vodka. Je lui ai livré ce matin, un homme très satisfait.
Merci beaucoup, Julien.
Ça fait plaisir.
Bonne Maître journée. Julien Bouliane. Seize heures trente-cinq.